des violences et des crimes en toute impunité, sans jamais être inquiété par la justice? Vous êtes insultant, violent, ne respectez pas le code de la déontologie? Méprisant, arrogant sont vos qualités? Prêt à tuer sans être en état de légitime défense? En argent de poche, pour arrondir vos fins de mois, coller des outrages à agents? La police recrute et la justice vous protège et vous acquitte. Même si vous êtes coupable, ne vous inquiétez pas. On fera en sorte que vous ne le soyez plus. Nos syndicats sont puissants, alors n'attendez pas. La police est le meilleur métier pour être au-dessus des lois. Urgence, notre police assassine.
Un Français sur deux peut devenir flic, l'autre l'est peut-être déjà. Ça laisse pas beaucoup de place. On a une police qui n'a jamais été aussi brutale, aussi hargneuse, aussi injurieuse dans certaines circonstances que celle dont on dispose actuellement.
Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à ton tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des troupes. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité.
C'était avant. Avant qu'une poignée de personnes décide d'ensanglanter les trottoirs de Saint-Denis et de Paris. Avant, déjà, on parlait de la violence d'un État qui n'était pas islamique. C'était vraiment pas longtemps avant. C'était le jeudi 5 novembre. La tête encore pleine d'une belle marche, le collectif pour une union antiraciste populaire avait organisé une projection du film « Qui a tué Alizéry » au cinéma Utopia, en présence du réalisateur Luc de Castère. Nous n'étions pas nombreux ce soir-là. Cela avait fait dire à une des participantes « Mais ils sont où les soutiens de Rémi ?» C'était pas faux. Où elles étaient les centaines de personnes mobilisées pour la mort de ce jeune manifestant? On était dans le thème pourtant, avec cette histoire d'un retraité résident à Argenteuil et mort après avoir rencontré une patrouille de police. Histoire d'un Algérien venu travailler en France. C'est peut-être pas significatif, les gens avaient autre chose à faire. Mais la séparation raciste de cette société se repère aussi dans les indignations militantes, dans les engouements et les alliances qui se forment, ou pas. On le voit de manière criante dans le monde d'après, celui de l'état d'urgence. Plus de 1600 portes défoncées dans le cadre de perquisitions administratives, des centaines de personnes assignées à résidence. Et lorsqu'une vingtaine de militants se retrouvent dans la même situation, on peut lire « L'état d'urgence dérape ». Quoi ? Jusqu'ici, ça allait. On arrivait à croire que toutes les personnes qui ont été visées sont de dangereux terroristes sanguinaires ou leur soutien. Comment peut-on arriver à croire que dans ce pays, il y a autant de gens prêts à faire ce genre de choses horribles? Il y a même des gens pour croire que les 20 000 fiches S sont 20 000 terroristes éparpillés dans la nature. C'est vrai, nous ressentons jamais autant la répression et l'injustice que quand elles nous touchent de près. C'est normal, c'est humain. Mais pourquoi le concernement n'est pas le même quand les descentes s'accumulent dans les périphéries des villes? Le discours du monstre fonctionne? En Argentine, lors de la répression sanglante des années 70, quand une personne était disparue, abattue ou simplement incarcérée, il y en avait toujours pour dire « Por algo será ». Il y a bien une raison, il n'y a pas de fumée sans feu. En fait, l'action des forces de répression bénéficie toujours d'une présomption de légitimité dans l'esprit du plus grand nombre. Et c'est cela que la justice défend en acquittant plus souvent qu'à son tour. Alors voilà, on a repris des choses du monde d'avant, que c'était pas la guerre mais qu'on mourait quand même. C'était avant qu'un flic reste un homme armé, même en dehors des heures de boulot. Avant que la police nationale ait les mêmes droits que l'armée, en l'occurrence la gendarmerie, pour ouvrir le feu. C'était avant que des lettres de cachet aient à nouveau le pouvoir de nous assigner chez nous. C'était avant que des hommes en noir viennent exploser nos portes, crient et humilient, sous présomption de culpabilité. C'était avant, et c'était déjà pas la joie. On entendra dans cet enregistrement des prises de parole enregistrées lors de la projection du film qui a tué Ali Ziri, des éléments d'entretien avec Maurice Rasfus, histoire de se rappeler l'histoire longue. On entendra des sons pris en manif par des camarades de l'actu des luttes, de FPP, et un montage réalisé lors de la marche pour Amadou Koumé à Paris par Case Rebelle. Une marche qui avait eu lieu avant le non-lieu. Encore un, prononcé dans cette affaire. Non, décidément, c'était pas la joie avant.
Je voulais dire, pour commencer, qu'il ne s'agit pas uniquement d'un film, mais bien de faits qui se sont réellement déroulés, et qu'il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'un cas représentatif. Trop souvent, les morts aux mains de la police sont individualisés et dépolitisés. Trop souvent, on parle de dérapage ou de bavure. Ou même, uniquement en parlant de violence policière. Or, il ne s'agit pas de cela. Ces actes sont le fait d'un système. Ces actes sont l'une des nombreuses manifestations de ce que nous appelons le racisme d'État. Une de ces manifestations les plus violentes. Ali Ziri n'est pas mort parce qu'il était militant. Il n'est pas mort parce qu'il était prolétaire. Il est mort parce qu'il était arabe. Même le privilège de l'âge ne pouvait pas lui être reconnu. On l'a traité de la manière dont la police traite toutes les personnes qui ne correspondent pas à la définition d'un Français. On l'a traité comme un sous-Français. Notre police assassine. Elle tue sans scrupule les petits délinquants, les militants, les pauvres, les jeunes des quartiers. Mais ceux qu'elle cible, sans aucun préalable, ce sont les personnes racisées. Ali Ziri, comme Ziad Ebouna, et tous ceux qui sont morts depuis et qui sont cités dans le film, est mort parce qu'il avait le tort de ne pas être de la race blanche de Nadine Morano. Ali Ziri a été tué par le racisme d'État. C'est pourquoi la lutte du comité Vérité et Justice, au-delà d'une lutte contre les violences policières, est une lutte contre le racisme d'État, dans laquelle notre collectif pour une union antiraciste et populaire se reconnaît pleinement. À Toulouse, les crimes policiers racistes ne manquent pas. Comme l'illustre dernièrement la mort suspecte de Timothée Lake en 2014. Il y a des batailles à mener. Il est de notre responsabilité à tous de mener ces luttes, de les faire connaître et d'y participer. Nous attendions de cette soirée que les spectateurs comprennent que ce n'est pas juste un film, que c'est une bataille judiciaire qui n'est pas terminée et à laquelle chacun peut apporter sa contribution.
Je les ai connus quand ils m'ont raflé avec mes parents en 1942. Ce n'étaient pas des Allemands, c'était des policiers français. Je les ai connus quand il y a eu les premiers grands mouvements revendicatifs dans les années 50. Et puis je les ai bien connus en 61, à l'époque de Charonne. Parce que j'étais dans la rue à Charonne, maître Charonne le soir, pas loin. Je les ai connus en mai 68. Et j'ai assisté à un déferlement de brutalité, de haine qui faisait que monter constamment. Alors il y a des périodes où c'est plus calme. Par exemple, quand la gauche a gagné les élections présidentielles en 1981, de faire devenir ministre de l'Intérieur, et bien pendant des semaines, quelques mois, il n'y a pas eu de bavure. Et ça, je peux le constater, j'ai un thermomètre chez moi. J'ai tout ce qui s'est passé en France depuis 68. Eh bien, selon les périodes, il y a plus ou moins de bavures. Eh bien, à partir de mai 81 jusqu'à la fin 81, c'est le calme plat. Et il y a le fameux discours de Marseille de Defferre au mois de juillet 81, où il s'adresse au corps policier et il dit « Les bavures, c'est fini. Les descentes dans les quartiers, c'est fini, etc. » Ça a duré 6 mois, quoi.
D'accord.
Mais il y a quand même des périodes où ça se calme. Mmh, mmh. Ça veut dire que quand on manie le fouet contre ceux qui aiment le manier d'habitude, ça change.
Ces bavures, enfin, j'ai l'impression qu'elles explosent sous certains ministres de l'Intérieur, que ce soit Marcelin, que ce soit Pasqua. Quand Pasqua revient, il est là en 86, en 93, quand il arrive,
c'est une explosion. Quand il revient en 93, il y a 7 morts dans la semaine qui suit. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est incroyable.
Donc il y a quand même certains ministres qui se lâchent et qui lâchent la bride aussi. Quoi.
Oui, oui. La hiérarchie laisse faire, n'a pas besoin de donner les ordres.
C'est-à-dire que la bavure, on n'en est pas une, en fait.
Non, mais la bavure, c'est La véritable explication de la bavure, je disais ça un jour sur Radio Libertaire, la bavure, c'est quand deux corps de policiers qui ne se connaissent pas et qui sont en civil se trouvent face à face et se tirent dessus. C'est ça la bavure. Quand il y a acharnement contre des manifestants ou des grévistes ou autres, c'est pas de la bavure, c'est de l'acharnement social ou antisocial qui peut aller jusqu'à l'excès. Parce que quand on balance un gars par terre, après lui avoir passé les menottes, et puis qu'on lui met un genou dans le dos, et puis qu'on lui tire les bras en arrière jusqu'à l'asphyxier, c'est comme disent les policiers qui sont jugés pour ça parfois, ils disent « c'est un geste technique qu'on nous a enseigné en école de police ».
Ta reine mutine toujours à corte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, la noire d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elle prenne force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Oyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. À clous, à clous. Ustensiles, force sciable, elles prennent un contact aimable avec l'œil ou avec l'orable. Du badaud qui ne sert à rien, réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active dans le ventre ou bien les gencives des crétins du quartier latin. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des âmes gendarmes, parure en même temps qu'armes, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. À clous. Discrète, c'est sans histoire, pendant les interrogatoires, qu'elles aident ceux du prétoire, de leur poids et de leur sagesse, respectant toujours la cadence, elles brisent joyeuse danse, les tibias et la résistance des malfrats vaincus qu'on confesse. Ce sont les chaussettes à clous, des juges si doux et les auxiliaires. Calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme. Ouais, des chaussettes à clous. À clous. À clous.
Il est vrai que la question du faciès est une réalité, mais il est conjugué en même temps à la question sociale. Je rappelle juste que le roi de l'Arabie Saoudite est venu cet été, on a privatisé une plage pour lui, tu vois, avec ses mille machins qui l'accompagnaient, et donc effectivement la question du faciès a aussi une couleur sociale. J'ai repéré dans la liste des victimes de la répression policière deux ou trois noms de connotation occidentale. Le reste, par contre, ça a été que du Nabil, de Mohamed, etc. Donc, bien évidemment, la question de la racialisation, aujourd'hui en France, est devenue une question structurelle, comme je dis à chaque fois, parce que tout simplement aussi, il faut préparer des mutations ultralibérales. C'est pour ça l'intervention de mon ami, je pense même s'il était un peu décousu. Il y a aussi cet aspect-là de créer des prétextes pour légitimer des mutations ultralibérales qui nous attendent tous. Quoi. Ceci étant dit, pour rappeler cette notion d'ennemi intérieur, qui est aujourd'hui qui est véhiculée, qui est devenue un socle de traitement d'une population, quand je me souviens, et personne ne le dit, des émeutes de 2005, bien avant les émeutes, il y avait un bouclage du quartier du Mirail, je me souviens, pendant deux mois, notamment Rennery, et on a essayé de se renseigner auprès de la préfecture pour savoir pourquoi ce quartier était bouclé. On ne nous répondait pas, puisque c'est une raison d'État. effectivement, le racisme d'État, il est là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pratiquement 25 quartiers à l'échelle nationale qui étaient bouclés, avant même la mort des deux jeunes, etc. Et que c'est après que Sarkozy est venu dire la racaille. J'ai l'impression aussi, au-delà de la question, ce que je disais tout à l'heure, c'est une manière d'utiliser cette population comme un vrai fond de commerce politique et électoral. Voilà.
Oui, je voulais vous remercier pour ce film, qui est en effet un très beau film, parce qu'il montre les gens, quand ils s'organisent, quand ils discutent entre eux, quand ils font face, parce qu'il faut faire face à la police en même temps, quand ils distribuent les tracts, quand ils font tout ce qu'il y a à faire, et il n'y a pas besoin du coup de discours superflu. Il n'y a pas besoin de dire c'est le capitalisme, parce que c'est vrai, mais ça ressort de leur manière de se présenter dans la rue, entre eux. Il y a une force par eux-mêmes, des gens, à partir du moment où ils se montrent comme ça, face à l'injustice.
Bah, je vais dire, en tant que moi je suis cinéaste, donc je peux parler aussi de moi. Si je suis là, je suis pas sur le fond, j'ai pas de légitimité plus grande que celle des autres, à part que je suis aussi membre du collectif Vérité Justice pour Alésiri. Et donc, et quand j'ai commencé à tourner en 2009, je pensais pas faire un film. Mais ce que j'ai voulu, et pourquoi je voulais pas faire un film, bien que j'ai filmé cette première manifestation que vous voyez pas en premier plan, mais que c'est la seconde, la manifestation silencieuse, j'avais pas envie de faire une enquête policière, c'était pas mon type d'intérêt sur le plan du cinéma, et que j'ai cherché une autre matière, et ce dont vous parlez, ça en fait partie, c'est-à-dire que ce que je voulais, c'est qu'autour de cela, on voit aussi autre chose, et entre autres, cette façon de s'organiser, ce qui est rarement vu. Bon, c'était d'autant plus facile que les gens connaissent depuis très longtemps, plus de 40 ans que j'habite à Argenteuil. C'est un cinéma militant, c'est aussi la forme qui me paraît importante de questionner plutôt que de donner des réponses toutes faites, et de marteler comme le fait le cinéma le plus lourd, pour imposer des messages, ou la télévision, pour vous obliger à ne pas penser. Alors c'est aussi cette forme, pour moi, je milite tout autant sur la forme que sur le fond, et ça me paraît important aujourd'hui quand il y a des cinémas militants. Bon. Et un cinéma qui impose, quel que soit ce qu'on veut appeler un message, et moi je ne suis pas porteur de message, je pense que les spectateurs sont assez capables de s'interroger, et c'est ça qui m'intéresse. Et y compris de porter ailleurs. Et je suis très content quand il y a des gens non militants dans la salle qui peuvent rencontrer d'autres ici et en discuter. Parce que ce qui est invraisemblable, c'est que ces choses-là ne soient pas sues, que les médias soient complètement tus. Il a fallu plus. C'est Mediapart qui fait connaître la nouvelle œuvre, mais au bout de plus d'un an. Et Amnesty International qui fait un dossier sur les affaires et qui pose une question, Amnesty International qui fait un travail vraiment avec une grande éthique et qui pose la question dans son dossier, les policiers sont-ils au-dessus des lois? Bon, poser la question, c'est pour nous, il y a quand même assez de capacité à pouvoir se trouver des réponses en cherchant, y compris par la suite. Bon, voilà. Et puis, c'est des affaires qui continuent, c'est aussi pour cela, parce que cette affaire continue, elle a été après elle a été devant la Cour de cassation, qui a cassé les non-lieux de Versailles et de Pontoise après 4 juges d'instruction. Et ce que nous apprend, y compris, j'en fais partie, hein, ces affaires et à travers et ce film qui voudrait témoigner à ceux qui ne connaissent pas suffisamment, faute de connaissances, entre autres par les médias, c'est que ce rapport avec la justice est tout à fait particulier quand il s'agit de policiers. Bon, pour que Amnesty parle de ça, je rappelle quand même que ce film-là est soutenu qui a été visionné par toutes les directions des grandes associations comme Amnesty International, par le MRAP, par la Ligue des droits de l'homme et par l'Action chrétienne contre la torture et la peine de mort, qui a fait un papier en disant qu'il y a un manque dans la juridiction française quand des policiers sont en cause et il n'y a pas d'indépendance. Le premier rapport qui est donné sur la mort d'Elisiris, c'est arrêt cardiaque, point final. Mais en fait, ce rapport a été fait uniquement par des policiers qui enquêtent sur la police et qui passent par les JPN et qui veulent remettre au juge. Et on demande à la famille de transporter le corps en Algérie tout de suite. Ce que la famille n'accepte pas, mais qui est en Algérie et ce qui est soutenu par le collectif pour que, effectivement, le corps reste là, qu'il y ait une nouvelle autopsie qui montre 27 hématomes que personne n'avait vu. Bon, 27 hématomes, dont un très important sur le dos qui montre qu'il y a la méthode du pliage et qu'un policier, en l'occurrence une policière, a plié, mais aussi Areski Kerfali a été plié. Lui en ressort, l'autre n'en sort pas, ne sortira jamais pour. Alors moi, c'est mon interprétation personnelle. Il ne sortira. Quand il meurt deux jours après, en fait, il n'est jamais revenu à lui. Bon. Mais il y a eu un tas de choses qui ont été des faux témoignages qui ont été pris comme bons quand c'est la police. Et aujourd'hui, il y a eu la Cour de cassation a cassé le jugement et il a été renvoyé à la Cour de Rennes qui a à nouveau donné un non-lieu sans tenir compte de ce que demandait la Cour de cassation.
La décision qui est tombée vendredi dernier, ça a été une fois de plus un coup de poing dans notre gueule. Ça a été un coup de bambou. J'ai eu l'avocat au téléphone vendredi dernier qui venait de recevoir la décision de l'appel de la Cour de Rennes. Et il est rare de voir un avocat entre la rage et les larmes. La décision de la Cour d'appel de Rennes a été de confirmer le non-lieu concernant la poursuite pour homicide involontaire à l'égard de X. Il s'agit en l'occurrence des trois policiers interpellateurs de M. Alizéry, âgé de 69 ans au moment des faits. On ne peut pas évoquer son nom sans rappeler un minimum de qui était ce monsieur. C'était un retraité algérien qui avait, comme nous le disait François Hollande il y a quelques jours, 3-4 jours, contribué, lui aussi à sa manière, à construire un logement sur deux en France. Contribué, lui aussi à sa manière, à construire 90% des autoroutes. Contribué, lui aussi à sa manière, en étant exploité comme vous pouvez l'imaginer, en vivant dans une chambre de 8 mètres carrés, reclus, loin de sa famille, à souffrir, à donner sa force de travail pour pas grand chose. Pas grand chose, c'est pas vrai. Parce qu'en retour, ce monsieur-là, il est reparti en Algérie les pieds devant. Il était venu en Algérie à l'occasion d'une belle fête. Il voulait acheter quelques affaires parce que son fils, handicapé, moteur, devait se marier. Il va boire un coup avec un pote, plusieurs coups. Oui, on assume. Oui, 2 grammes d'alcool dans le sang. Et pourtant, toutes les expertises médicales prouvent, disent, témoignent que Alizéry n'est pas mort à cause d'un cœur trop fragile, à cause d'un excès d'alcool dans le sang, à cause de vomissements. Il est mort. C'est ce que disent 3 expertises sur 4, dont l'une, et pas des moindres, l'Institut médico-légal, en la personne du professeur Lecomte, qui est une sommité de l'expertise médicale. Tous disent, s'accordent à dire qu'il est mort par hypoxie, c'est-à-dire manque d'oxygène dans le sang. Une hypoxie qui est secondaire à une immobilisation, une asphyxie mécanique des poumons, pour reprendre les termes mêmes médicaux, qui elle-même est due à la technique d'immobilisation utilisée par les policiers. C'est ce que dira la dernière expertise, y compris. Eh bien, malgré ça, 3 juges d'instruction nommés sur l'affaire. Et quand un juge d'instruction décide d'aller au bout, eh bien, le bout pour cette justice en France, ça s'est traduit par un non-lieu la première fois. Le collectif et la famille ont fait appel. Cour d'appel de Versailles, confirmation du non-lieu, et avec des arguments qui font peur, Parce que ce que demandaient les avocats et la famille sont des choses très simples du point de vue de l'instruction. Ils demandaient que les policiers soient auditionnés par le juge. Parce que c'est pas un non-lieu dans le sens où les flics n'y sont pour rien. C'est qu'en réalité, la justice ne s'est pas faite, n'a pas été entreprise, n'est même pas allée au bout, elle n'a même pas commencé un début d'instruction de quoi que ce soit. Les juges, aucun des juges n'a entendu les policiers. Les policiers ont été entendus uniquement par la police des polices. Je vous laisse réfléchir. Deuxièmement, les témoins de l'interpellation n'ont pas été entendus par le juge. Ils ont été entendus par la police des polices. Troisièmement, la caméra numéro 7, qui est la caméra située devant le commissariat de police d'Argenteuil, n'a pas été visionnée en présence des témoins, en présence des experts médicaux et en présence du juge. D'ailleurs, avec un argument qui fait peur. L'un des juges d'instruction de la Cour d'appel de Versailles de mémoire dit la chose suivante. Nous ne visionnerons pas la caméra numéro 7 parce que ça pourrait remettre en cause la sincérité des témoins, à savoir des policiers. Voilà, noir sur blanc, les raisons qui font que l'instruction n'a même pas commencé pour M. Alizéry. Concernant les expertises, il y a eu 4 groupes de médecins qui ont vu M. Alizéry. 3 sur les 4 s'accordent à dire qu'il y a une hypoxie, qu'il n'est pas dû, qu'il n'est pas mort à cause d'un cœur malade. La première qui s'est faite à la va-vite, seule elle, reprenant uniquement les conclusions des réanimateurs de l'hôpital, fait l'hypothèse qu'il avait peut-être une hypertrophie cardiaque, c'est-à-dire un gros cœur, et qui expliquerait la mort, vous savez, comme ces footballeurs sur les terrains de foot qui meurent subitement. Voilà l'état des lieux concernant les expertises médicales. Eh bien, on le dit très simplement, il n'y a pas en France une impunité policière. Il y a en France une impunité policière et une impunité judiciaire. On doit comprendre ici que ce n'est pas simplement une affaire de 3 flics qui font du zèle. C'est un problème d'ordre structurel, c'est un problème de société. Lorsque la justice vient couvrir la police, et lorsque des gouvernements successifs, car cette histoire-là a commencé il y a 5 ans sous Sarkozy, elle se poursuit sous Hollande, sous le gouvernement Taubira, Valls, eh bien, lorsque les gouvernements successifs de droite comme de gauche couvrent une justice qui elle-même couvre la police, eh bien, on peut le dire de manière très posée, sans polémique à 2 balles. Aujourd'hui, quand on est issu des quartiers populaires, parce qu'on a un accent accroché sur le prénom, parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe et parce qu'on est rome, eh bien ta durée de vie n'est pas la même que celle des autres. Ta dignité n'est pas la même que celle des autres. Et on s'excuse du peu.
Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sujovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt.
Oui, bonjour, excusez-moi, moi c'est Salim Ben Abderrahman, journaliste culturel en, en langue arabe ici, ici à Toulouse, et franco-algérien aussi. Et par rapport à ça, moi je constate aussi, votre film est très bien, donc très bien réalisé par rapport à ça. Le héros est mort, mais il est le héros. Et ça c'est quelque chose de très grand à réaliser. Je compare aussi un peu dans tous les pays occidentaux, comme aux États-Unis, aujourd'hui on va être à peu près à 600, à peu près, j'irai un peu, 550 morts par balle à bout portant. 90% des morts sont des noirs, donc à bout portant. Et la plupart ne portaient pas d'armes. Les 10 autres restants doivent être des Mexicains. Mais en tout cas, on a un côté, et ici en France, on a aussi des statistiques qui rapprochent de cela. On a une volonté, depuis l'indépendance de l'Algérie, avec le système des migrations, en fait, à créer en fait dans des quartiers une ethnie qui serait différente donc de la majorité. Donc à partir de là, la police d'un pays occidental devient une armée et son armée devient une police. Donc les policiers quand ils rentrent dans les quartiers, que ce soit Bagatelle, le Mirail, la Rennerie, les Isards ou autres, je parle de Toulouse, mais pareillement en Seine-Saint-Denis par exemple, ils rentrent en territoire ennemi. Ils rentrent comme des soldats israéliens dans des camps palestiniens. Ils ont peur. Ils tremblent. Eux, ils tremblent à l'intérieur. On les voit trembler quand ils viennent nous voir par rapport à ça. Ils sont avec leurs gilets pare-balles et leurs armes, leurs flashballs ou des mitraillettes. Donc ce n'est pas une police, en fait. Ils réagissent comme un corps, pour ceux qui viennent un peu des esprits, un peu de combat, ils réagissent comme un corps de combat, comme une armée, donc. Et une armée ne se trahit pas. C'est-à-dire que quelqu'un fait une bavure, on ne le trahit pas. C'est une famille. Voilà. On reste, on se tait, on parle pas. C'est comme ça. Une police véritable qui aurait été une municipale gentille, enfin normale, classique, comme on l'entendrait dans les définitions même de la police, oui, à ce moment-là, il y aurait des policiers qui seraient jugés. On dirait « ce policier a fait du mal » parce que c'est la police du pays. Attention, la nation, la patrie, voilà, c'est une mauvaise image. Et la police se doit de donner une bonne image. Mais on n'est pas dans un système de ce type. Le système à la base est mauvais et changeant. C'est un corps d'armée, un corps d'élite qui rentre dans les quartiers, justement, en disant on rentre dans un territoire ennemi par rapport à ça. Donc voilà. Et bien sûr, autour de ça, on a toute la mentalité de la suprématie blanche qui serait fantasmée. Et donc, par rapport à ça, on a ce côté-là. Donc, des blancs et à l'intérieur des quartiers, des autres. Voilà. Et cette situation-là fait que la situation en elle-même est incontrôlable. Et ça continue en fait, ça continue toujours comme ça. Il y a eu à un moment donné à Limoges, dans un quartier, des policiers sont rentrés, une quarantaine, donc surarmés. Il y avait des jeunes, ils ont attrapé un et ils l'ont tabassé à mort. Ils ont gardé en joue, en pistolet, donc les amis qui criaient lâchez-le, lâchez-le. Et ils l'ont attrapé et ils l'ont tué au milieu du quartier. Donc une mise à mort. Sur les 40 policiers, je pense pas que les 40 sont des monstres assoiffés de sang. Mais il y a un esprit de groupe, un esprit de corps. On ne trahit pas son frère. Donc, qu'on retrouve dans les armées, quand une armée va combattre. Donc là, c'est une police dans un même état. Et le système, justement, de placement des quartiers et de l'immigration crée cette mentalité-là dans le pays, en lui-même. Donc ça, c'est... Voilà, ça, c'est dramatique. Et les pays occidentaux doivent changer la chose à l'intérieur.
La police de notre République, elle a cette spécificité, c'est qu'elle elle n'est pas républicaine. Et qu'elle a tous les défauts d'une police des États totalitaires. Et si on ne connaît pas ici les brigades de la mort, comme il y a eu en Amérique du Sud, c'est qu'il y a des limites qui ont été fixées quand même dans un certain cadre relativement strict, mais que si on les laissait aller à leur bas instinct, ce serait beaucoup plus grave. Quand je dis ne pas laisser, quand je parle de bas instinct ou de soumission à n'importe quel ordre reçu, ça nous renvoie à l'époque de l'occupation nazie, où un corps intégralement soumis a fait les tâches les plus immondes qu'on puisse demander à des fonctionnaires.
Je crois même qu'ils en ont fait plus que ce qu'on leur demandait.
C'est le cas maintenant, heureusement que la situation n'est pas la même. Mais il y a toujours la volonté d'améliorer la punition ou la sanction. Et les 100 000 policiers de l'époque, on peut dire qu'ils étaient 99,99% aux ordres du pouvoir. Et même s'il y a eu des résistants dans la police, il y a peut-être eu des résistants à titre individuel, mais ceux-là ont fait le même travail que les autres, sauf à être révoqués de l'institution. Bon, on passe rapidement sur la période, ça c'est pour montrer les limites. Parce que moi je me souviens, étant tout gamin, de voir ces policiers qui, certains jours, paradaient avec la mitraillette sur l'épaule quand ils étaient à la chasse à un suspect. Alors, bien sûr, c'est pas la même police, en fait. On ne peut pas reprocher aux policiers actuels les dérives de leurs, comme ils disent, de leurs anciens, mais qu'ils seraient tout prêts à se conduire de la même manière si on leur demandait. Et on a vu depuis la guerre d'Algérie, et ça n'a jamais cessé, à quel point ils étaient, tout empreints de convivialité envers ceux qui n'ont pas la couleur convenue. C'est-à-dire qu'il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a souvent de la haine.
La férocité policière ne découle pas d'accès de fureur spontanée. Ce n'est pas la dérive résiduelle de minorités radicalisées de la police. C'est le produit d'un système de techniques expérimentées, légitimées et soutenues par des protocoles rationalisés. Les BAC sont formés pour produire certaines forces de férocité susceptibles d'assurer la reproduction des rapports de domination de classe, de race et de genre, en étant elles-mêmes le produit de ces dominations. La police des cités fonctionne comme une application technique de la férocité des classes dominantes sur le corps des pauvres. L'agressivité et l'arrogance de la BAC font ainsi mécaniquement écho à l'agressivité du capital et à l'arrogance bourgeoise. La police de choc s'étend comme courroie de transmission de la férocité bourgeoise. Le BAC-eux justifie sa brutalité comme l'idéologie patronale justifie la brutalisation des travailleurs revendicatifs, comme l'idéologie esclavagiste justifie la brutalisation d'un esclave insolent, comme l'idéologie paternaliste justifie la brutalisation des enfants indisciplinés, et comme l'idéologie patriarcale justifie les violences faites aux femmes insoumises. La domination masculine et hétéro-patriarcale, comme la domination blanche et raciste, structure le fonctionnement de la police en général, et particulièrement de la police des cités, gardienne obsédée des strates les plus menaçantes pour l'ordre impérial. La correspondance entre la figure de la cité et celle de la femme insoumise dans l'idéologie dominante est frappante. La représentation de la cité comme une entité féminine, sensible, hystérique, qui s'émeut sans raison et qu'on peut frapper pour la calmer, traverse toute la société impérialiste et en particulier ses appareils répressifs. La BAC expérimente quotidiennement le renforcement du pouvoir policier par l'industrialisation d'une férocité virile, blanche et bourgeoise.
Plastique, les bastons sont plastiques, mitraille, en guise de mitraille, y'a rien de plus pratique, pour calmer la canaille. Au nom de notre rage, disons sans embâche, au nom de notre... disons-le sans embâche, disons-le sans embâche. Ah, je pas de flic dans le quartier, pas de quartier pour les flics, pas de quartier pour les flics, pas de flic dans le quartier, pas de flic dans le quartier, pas de quartier pour les flics. Plastique, les flics, les flics, plastique.
J'ai cauchemardé. Il y avait des gendarmes partout. Plein, plein, partout. J'ai cauchemardé de gendarmes.
Bonsoir, merci. J'avais juste envie de partager avec vous tous là une réflexion ou un début de réflexion un peu à chaud. Et puis pour revenir aussi sur le sujet du film, même si c'est très intéressant, hein, tout ce qui se passe autour, les questions de censure économique et tout. Mais juste pour revenir sur l'intervention qui avait lieu juste avant, justement, moi aussi j'ai une petite frustration de l'ordre. J'aurais bien aimé connaître un peu mieux Alizéry, surtout il y a la question, enfin le titre du film qui est formulé sous forme de question. Donc après, votre parti pris, c'est de dire je ne fais pas une enquête. Donc voilà, ok.
Et j'accueille, continue à questionner.
J'accueille ça. Non, en fait, j'aimerais juste aller un peu plus loin. Et je me dis juste, et c'est ça que je voulais partager avec vous. En fait, effectivement, cette histoire-là est représentative de violences policières. Mais à un moment donné, à mon avis, la démarche antiraciste, c'est une réflexion, hein, mais elle passe aussi par redonner une identité vraiment complexe et véritable à ces personnes, quoi. Donc j'entends bien qu'à un moment donné, pour pouvoir peser, pour pouvoir lutter, comme à la marche de la dignité à Paris, voilà, il faut une énumération des noms, il faut voilà des ce genre de choses. Mais ce qui avait d'intéressant aussi à la marche, pour le coup, c'était qu'au micro il y avait justement dans le détail le cas de figure de chaque personne qui avait été assassinée par la police, et dans le détail vraiment, et avec un parti pris en plus pas trop émotionnel. Enfin, je trouvais qu'il y avait une vraie justesse aussi dans les prises de parole et tout. Et je trouve ça important, en fait, aussi de travailler contre une forme d'homogénéisation aussi, et de faire en sorte, voilà, de redonner des noms de famille à ces personnes, de redonner un nom de famille à Ziad, de redonner un nom de famille à Abouna aussi, de redonner une histoire, un parcours à ces gens, qui n'est pas juste, qui peut être un parcours d'ouvrier, qui peut être un parcours de quartier populaire, qui peut être un parcours de pauvreté, etc. Mais il y en a plein d'autres, en vérité, et pour autant, il y a quand même un vécu de racisme. J'entends bien, quand on vient d'Arabie Saoudite ou de je ne sais quel pays riche, et qu'on est voilé, bon, et qu'on a beaucoup d'argent, et qu'on va faire les courses aux Champs-Élysées, on vit peut-être pas le racisme. Pour autant, je sais pas, moi, j'aimerais bien, voilà, ma réflexion, c'est ça, je la partage avec vous, c'est de l'ordre de me dire qu'il y a peut-être aussi une démarche à rapporter une diversité, une identité, une dignité, une complexité à toutes ces personnes, et pas contribuer à une forme de un grand groupe, les Arabes et les Noirs, et faire attention, voilà, avoir une vigilance, voilà, peut-être, c'est ça. J'espère que j'ai pas fait de maladresse.
Mais est-ce qu'entre cette police de l'occupation et ensuite cette police qui va commencer à s'occuper, à gérer un petit peu tout cette après-guerre d'Algérie, on va dire, hein, est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité, ou est-ce que c'est toujours resté sous-jacent, ça a toujours été un petit peu les mêmes méthodes qui étaient mises en sourdine à un moment donné parce qu'on était au lendemain de la libération et qu'il fallait faire un peu plus bonne figure et que tout le monde avait été résistant, en fin de compte. Et ensuite, ça s'est réveillé avec la guerre en Algérie, où en fait, on a intégré, je crois, après la guerre en Algérie, beaucoup de militaires qui étaient quand même aguerris à toutes les méthodes de torture qu'ils avaient pratiquées en Algérie, qui ont été intégrés dans la police. Et c'est ceux-là même qui ont géré ensuite les manifs étudiantes.
Hein, oui, c'est plus grave que ça. C'est que tout au long de la guerre d'Algérie, c'est des recrues qui reviennent d'Algérie, en partie, qui ont été recrutées dans la police. Et ceux-là, eh bien, ils n'avaient que, comment dire, comme type de réflexion, la volonté d'appliquer aux Français le traitement Bougnoul. Et en même temps, dans les années 70, peu à peu, le niveau culturelle, entre guillemets, de la police a évolué jusqu'à arriver à ces 10 dernières années où, pour être policier, il faut être bachelier. Mmh. Ça n'a pas amélioré le sens humanitaire de nos gardiens de l'ordre public. Et puis, l'entrée des femmes, massivement, elles sont 30% maintenant. Donc on disait que ça allait humaniser la police, ça n'a rien changé parce qu'elles ont le... D'abord, entrer dans la police est un choix qui n'est pas anodin. Et elles ont la volonté d'en faire autant que leurs collègues hommes pour être considérées. Et puis il en va de même des policiers noirs, hein, je pense aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Réunionnais, qui ont un besoin, comment dire, d'être aussi efficace que les Blancs, sinon ça colle pas. Donc il y a cet environnement, il y a des policiers qui ne font plus trop moins l'école de police comme à l'époque de la guerre d'Algérie, et qui font un an d'école de police. Et on a une police qui n'a jamais été aussi brutale, aussi hargneuse, aussi injurieuse dans certaines circonstances que celle dont on dispose actuellement. Mais le problème, c'est qu'il y a 50, 60, 70 ans, ou juste avant la guerre, nos policiers, c'était des brutes épaisses, des, comment dire, pour être gentil, des bœufs de labour, qui faisaient là où on leur dit de faire. Maintenant, ils améliorent, ils en font un peu plus. Ils imaginent, avec la politique du chiffre qui leur a été imposée sous Sarkozy avec prime à la clé, qu'il faut en faire davantage pour être considéré par la hiérarchie, mais par une hiérarchie qui méprise sa base. C'est-à-dire que quand un policier n'est pas assez, comment dire, raide, dur, on le lui fait remarquer. Et à toutes les époques, bien les policiers ont été fidèles à la consigne.
Ce qu'on sait aussi, c'est ce que dans la petite brochure qui est proposée du film qui est en bas là, c'est que les policiers donnent des informations sur un tas d'affaires à la police, à la justice, et que c'est juste d'instruction. Ils considèrent qu'ils ont besoin d'eux, donc il ne faut pas toucher à ces gens qui risquent de nous empêcher de travailler. Et l'avocat Maître Mongeant, qui par ailleurs est président du Justice. Mais vous voyez, je préfère faire un cinéma abusif et qui permet de rendre la chose plus large. Ce n'est pas seulement l'affaire Aziri qui est en jeu, parce que l'affaire Aziri se ressemble de moins. Mais Amadou Koumé qui est décédé en mars dernier.
Dans la nuit du 5 au 6 mars 2015, Amadou Koumé, cinquantinois de 33 ans, est mort entre les mains de la police à Paris. Depuis, ses proches, sa famille, luttent pour obtenir vérité et justice sur un décès brutal que la police leur avait initialement présenté comme consécutif à un malaise. Mais l'autopsie est accablante. La mort d'Amadou résulte d'un œdème pulmonaire survenu dans un contexte d'asphyxie avec traumatisme facial et cervical. L'autopsie fait état de plusieurs hématomes sur le corps et le visage. Samedi 10 octobre 2015, nous étions à la marche organisée à Paris pour exiger la vérité et la justice, pour exiger que soit enfin nommé un juge d'instruction. Au départ de la gare du Nord, la marche s'est d'abord arrêtée devant le bar où Amadou Koumé a été violemment interpellé par la police, et la marche s'est ensuite dirigée vers le commissariat du 10e, rue Louis Blanc, où il est arrivé mort. Jessica, compagne d'Amadou Koumé.
Pour attirer les policiers aujourd'hui, j'ai envie de les entendre. Et pour cela, il me faut un juge d'instruction. S'il n'est pas saisi, cette affaire tombera dans l'oubli. Comme est souvent le cas. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand un policier tue,
Amadou Koumé. Justice, justice pour Amadou Koumé.
Amel Bentounsi, collectif Urgence Notre Police Assassine.
Amadou Koumé est mort. Mon frère a été tué par la police d'une balle dans le dos. Sa réalité a été étouffée. Ali Siri, la ligne Cheng. La liste est longue, là aussi il est tout fier. Abdoulaye Camara, il y a urgence d'interpeller l'opinion publique aujourd'hui. En France, la police assassine en toute impunité. Puisque aujourd'hui c'est la rage de la justice qui nous anime. Puisque nous, les familles de victimes, on a été mis sur le bord de la route. On est mis de côté, pas considéré dans cette affaire de Amadou Koumé. Malgré une autopsie faite par des experts, une autopsie accablante contre ces policiers. Accablante! Puisque ces experts disent clairement, Amadou Koumé a été tué à la suite d'une asphyxie. C'est-à-dire qu'on s'est acharné sur lui. On l'a vu mourir. 7 mois après, le procureur, malgré cette autopsie, il n'y a toujours rien, toujours pas d'instruction ouverte. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal?
Collectif Ferguson in Paris.
The Chicago Alliance contre le racisme et la répression politique en solidarité avec nos frères et sœurs à Paris en France demande la justice pour Amadou Koumé. Amadou est un afro-descendant de plus, victime de délits de faciès et tué par la police française seulement à cause de la belle couleur de sa peau. La vie volée du frère Amadou, cela aurait pu arriver à n'importe quel afro-descendant dans n'importe quelle ville, de Paris à Ferguson et Chicago.
Pas de paix, pas de justice, pas de paix. Pas de paix, pas de paix. Pas de paix, pas de paix. Pas de paix.
Parce que malheureusement...
Ramata Dieng, collectif Vivolé.
On est dans un pays qui se targue d'être le pays des droits de l'homme, mais de quel homme? Mais pas de tous les hommes, visiblement. Pas des Noirs ni des Arabes, apparemment. On s'imagine, quand on n'est pas touché par les violences policières, que la justice fonctionne, qu'elle se met en marche toute seule et que ça roule. Eh bien non, c'est faux. Pour nous, il a fallu se battre à chaque étape. Donc pour mon frère, le juge d'instruction, après 8 ans, a ordonné un non-lieu. Nous sommes aujourd'hui en cours de cassation. Ça a été le cas pour Aboubakari Tandia, qui a été tué également à Courbevoie. Ça a été le cas pour Mahamadou Marega. Ça a été le cas pour Ziad Ebouna, pour Larami et Mouchine. Ça ne s'arrête pas. Chaque année, un jeune noir ou maghrébin est assassiné par la police alors qu'il n'est pas armé, qu'il ne menace personne et donc on n'est pas dans le cadre d'une légitime défense. Comment peut-on justifier que des policiers tuent des gens et que la justice ne s'applique pas à eux? Ça signifie clairement, les messages sont clairs, ça veut dire que les policiers sont au-dessus des lois. Comme disait tout à l'heure mon camarade, on devrait être des milliers dans la rue pour dénoncer ce déni de justice. Et ce n'est pas le cas. Mais même si nous devons être deux, nous continuerons à marcher et à dénoncer les criminels et la complicité de l'État.
Donc encore une fois,
un membre de la brigade antinégrophobie.
Nous sommes à nous réunir pour un mort de plus. Cette fois, c'est Amadou Koumé. Il y a eu avant Lamine Dieng, il y a eu Mamadou Marega, Ali Ziri, Amine Bentounsi. Enfin, à chaque fois, c'est la même chose. Les policiers tuent nos frères et sœurs et la justice les acquitte. Donc pourquoi? Il faut savoir que la police a été créée il y a quand même quelques siècles. Donc au XVIe siècle, un policier pouvait faire office de policier et de juge en même temps, c'est-à-dire qu'il arrêtait un malfaiteur et tout de suite lui infligeait sa peine. Donc aujourd'hui, Nous sommes dans la même configuration. Il n'y a rien qui est fait, qui est dit au hasard. C'est un héritage colonial et même un héritage de l'esclavage. Il faut savoir qu'à l'époque de l'esclavage, les Noirs devaient montrer un certificat qui prouvait qu'ils étaient affranchis ou que leur maître leur avait donné l'autorisation d'aller d'un point à un autre. Et bien là, c'est le même dispositif avec les contrôles aux faciès. Donc voilà, tout cela pour dire que nous sommes dans un cas de négrophobie.
En toute impunité. Parce qu'aujourd'hui, c'est Amadou Koumé. La liste est longue et beaucoup trop longue.
Justice, justice pour Amadou Koumé. Justice, justice pour Amadou Koumé. Justice, justice pour Amadou Koumé. Justice, justice pour Amadou Koumé.
Prise de son réalisation, Case Rebelle. Octobre 2015.
Justice pour Amadou Koumé. Justice, justice pour Amadou Koumé. Justice, justice.
Ce que rappelle Walid en parlant de l'affaire Hakimajimi, c'est la même chose, mais sauf que là, il y a 18 témoins. Bon, alors, ils ont été condamnés, effectivement, les policiers, à une peine ridicule, avec sursis, c'est-à-dire qu'ils sont toujours la police, ils exercent toujours, et c'est une peine scandaleusement ridicule. Donc, il y a vraiment des questions à se poser. Et même moi, qui ne suis pas ingénu, j'habite, je vous dis, à Argenteuil depuis très longtemps, mes enfants ont été à l'école, au lycée, à côté de la dalle, et sous une cité, et je connais quand même pas mal de choses dans ce domaine, et le rapport avec la justice police est quand même assez exceptionnel. Et là, y compris, je pense que Omar... le personnage que vous voyez au début qui intervient sur la police, sur la voiture, il pense vraiment qu'ils vont être condamnés. Et il y a un jeune qui est à côté que je laisse, hein, parce que je ne veux pas dire que tout va bien, qu'il y a des héros qui s'affluent et qui vont. Et le jeune à côté, il n'y croit pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là, ils vont être mutés. Ils ont été mutés tardivement. Ils l'ont été au bout de 3 ans. Et mutés à 1 km. Et ce que ça veut dire. Et en même temps, nous, on se sert de cet argument-là, parce qu'ils ont été mutés. C'est qu'ils avaient une faute, quelque soit. Et pourquoi la justice dit que ce n'est pas le cas? C'est quand même incroyable. Bon. Donc je crois qu'il y a vraiment à se poser des questions, parce que moi, j'ai été élevé quand même dans l'idée qu'en France, il y avait une espèce d'indépendance de la justice. Et bien, même les magistrats qui veulent cette justice, si bien ils ont des difficultés à pouvoir exercer correctement et à se faire entendre.
Il a choisi la violence, il en a payé le prix.
Je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues.
Il en a payé le prix.